Bonjour à tous. Dans le cadre de l'émission Santé Plus, aujourd'hui, au nom de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et proches de personnes vivant avec des troubles psychiques, nous allons parler de la relation qui existe entre l'hôpital, qu'il soit public ou privé, et ses usagers, c'est-à-dire les patients, les malades et leurs proches. Pour nous expliquer ce lien qui prend différentes formes, j'ai invité Madame Charlotte Giraud, qui est responsable des affaires juridiques et chargée des relations avec les usagers au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. Madame Giraud, vous êtes chargée de ces deux missions. Pouvez-vous nous dire en quoi elles consistent exactement ?
Bonjour Catherine, tout d'abord je vous remercie de m'avoir invitée dans votre émission. Donc je vais commencer déjà par ma mission de chargée des relations avec les usagers. Donc j'ai pour rôle d'accompagner les professionnels dans leurs relations avec les usagers, notamment en assurant la coordination de la gestion des réclamations et des demandes de dossiers médicaux. Donc je suis également chargée de mettre en œuvre et de développer les droits des usagers. Donc les droits des usagers ont été établis par une loi du 4 mars 2002, qu'on appelle plus précisément la loi Kouchner, et tout ça en coordination avec les différents acteurs internes comme externes. Ensuite, en tant que responsable des affaires juridiques, mon rôle est d'apporter une expertise et un appui juridique dans le domaine du droit des patients aux professionnels de santé et aux usagers. Et à ce titre, j'organise par exemple la gestion du contentieux relatif à tout ce qui est usager. Et aussi, en tant que juriste, je suis chargée de rédiger, par exemple, et vérifier les conventions passées entre le centre hospitalier La Chartreuse et ses différents partenaires. Et puis, je suis aussi formatrice pour le centre hospitalier, mais aussi en externe. Donc, bref, mes missions sont, c'est vrai que elles sont assez vastes. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais le principal à retenir, c'est que j'essaie d'apporter mes compétences de juriste spécialisée en droit de la santé pour aider, soutenir, vérifier et apporter des réponses aussi bien au personnel du centre hospitalier La Chartreuse que des usagers et de leurs proches.
Alors, en ce qui concerne la relation avec les usagers et leurs familles, vous recevez des réclamations de leur part. Quels sont les principaux motifs, ou les principaux motifs plus exactement, d'insatisfaction ?
Les motifs de courrier les plus fréquents sont les demandes d'information de la part de tiers. Donc quand je parle de tiers, c'est toute personne qui n'est pas le patient et qui souhaite avoir des informations sur la prise en charge de ce patient, ou alors qui demande à ce que le patient soit pris en charge. Donc cela peut être la famille, un proche, mais aussi un voisin, un propriétaire, etc. Donc viennent ensuite les demandes des patients sur leurs droits. Donc elles concernent majoritairement des demandes d'information sur les soins sans consentement, ou alors des demandes de prise en charge, par exemple. On retrouve également des demandes sur l'organisation des soins, donc l'organisation de la prise en charge, l'attente pour les rendez-vous médicaux, les sorties, les transferts et encore d'autres types de demandes. Donc au final, ce que je peux constater, c'est qu'il y a surtout des demandes d'information de la part de patients, et ces demandes, elles n'ont pas forcément pour vocation d'aboutir à un contentieux, c'est vraiment pour avoir des informations sur leur prise en charge.
Alors comment répondez-vous à toutes ces réclamations ?
Donc ce qui est important de savoir, c'est que les réclamations, elles sont toujours traitées en lien avec les équipes médicales et soignantes. Et un courrier de réponse que je rédige, qui est personnalisé et c'est toujours signé par le directeur, bien évidemment, est systématiquement envoyé au réclamant. Il explique la législation qui est applicable aux établissements de santé. Et dans la mesure du possible, j'essaie également d'avoir un contact direct par téléphone ou d'organiser un entretien afin d'apporter une dimension un peu plus humaine au courrier.
Alors, je pense que vous recevez aussi des lettres de remerciement.
Oui, heureusement, on reçoit des lettres de remerciement. C'est le directeur qui les reçoit, donc concernant la prise en charge qui est apportée. Nous les transmettons toujours aux équipes. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que la plupart du temps, les courriers de satisfaction, ils arrivent directement dans les unités de soins.
Est-ce que vous les gardez ?
Oui, bien sûr, on les garde. Non seulement on les garde, mais en plus, ça représente un indicateur très important de la qualité des soins, avec bien sûr les questionnaires de sortie.
Alors, selon une circulaire du 2 mars 2006, les droits de l'usager sont précisés dans la charte de la personne hospitalisée, qui doit être portée à la connaissance de chaque personne hospitalisée. Cette charte énumère un certain nombre de droits, droit à l'information, au respect de la dignité de la personne et de son intimité, à la qualité de l'accueil, droit au traitement et aux soins, etc. Des tas d'autres droits qui sont énumérés dans cette charte. Au centre hospitalier, comment les usagers prennent-ils connaissance de cette charte ?
Alors, cette charte, elle est très importante. Donc, elle a pour objectif de faire connaître leurs droits aux personnes accueillies et elle est affichée dans toutes les unités du centre hospitalier La Chartreuse, conformément à la législation. On la retrouve également dans le livret d'accueil qui est distribué aux patients hospitalisés.
Alors, la loi a également institué la notion d'usager avec des représentants d'usagers qui siègent, par exemple, dans des commissions. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément son rôle ?
Alors, la commission dont vous parlez, je pense que c'est la commission des usagers. Donc, elle a été instituée initialement en 2005. On l'appelait commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Elle a été modifiée par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016. Donc, elle est composée de professionnels de l'établissement et aussi de représentants des usagers. Donc, d'ailleurs, depuis 2016, la présidente et la vice-présidente sont élues par les membres de cette commission. Et donc, dans notre établissement, c'est la secrétaire générale de l'établissement qui est présidente et c'est une représentante des usagers qui est vice-présidente. Donc, son rôle à cette commission, c'est de veiller au respect des droits des usagers, faciliter leur démarche, contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients. Elle est également informée de tout ce qui est événement indésirable grave, des actions menées par l'établissement pour y remédier. Et puis aussi, elle participe à l'élaboration de la politique qui est menée par l'établissement en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers.
En dehors de cette commission, les représentants des usagers participent, je pense, à d'autres instances.
Oui, les représentants d'usagers, en tout cas dans notre établissement, ils ont un rôle très important et ils sont très impliqués, on a cette chance. Et donc, ils sont présents dans plusieurs instances et groupes de travail. Donc, ils sont là dans au conseil de surveillance, comité d'éthique, etc., etc.
Madame Giraud, vous êtes sur RCF dans le cadre de l'émission Santé Plus et vous nous faites part de votre témoignage de juriste au sein du centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. Mmh. Vous êtes chargée de répondre à la demande de transmission des dossiers médicaux et qui peut en faire la demande ?
Donc, je suis chargée effectivement de faire respecter la législation en matière de transmission d'informations médicales. Et dans ce cadre-là, il est important de savoir que seul le patient peut avoir accès aux informations médicales qu'il concerne. Hormis certaines exceptions, c'est-à-dire le mineur, c'est les titulaires de l'autorité parentale qui peuvent faire la demande, le tuteur dans certaines conditions ou encore les ayants droit quand le patient est décédé. Donc, voilà à peu près comment ça se passe.
Alors, dans ce dossier médical, qu'est-ce qu'on y trouve ?
On retrouve l'ensemble des informations médicales ou paramédicales qui concernent un patient. Et il faut savoir aussi que lorsque la famille ou un proche donne des informations qui concernent l'usager, au médecin ou à l'équipe soignante, toutes ces informations, elles sont transcrites bien évidemment dans le dossier, mais par contre, elles ne seront pas transmises au demandeur.
Alors, pour quelles raisons le patient peut-il demander accès à son dossier médical ?
Alors, les causes des demandes sont assez variées. On retrouve des recherches généalogiques, des changements de médecin référent, pour cause de déménagement par exemple, dans le cadre de divorce aussi, ou alors pour les assurances, dans le cadre de demandes de prêt. Ou alors les patients, ils demandent à voir leur dossier juste pour savoir ce qu'il contient.
Alors il y a souvent des familles, dont le proche, qu'il soit enfant, frère, sœur, père ou mère, qui souhaiteraient avoir accès à ces informations médicales pour comprendre la maladie de ce proche et ainsi mieux le soutenir. Est-ce que c'est possible ?
Ce que nous répondons aux familles dans ce genre de cas, c'est que la loi, effectivement, ne donne aucun droit aux membres de la famille d'une personne pour intervenir dans son suivi médical, hormis, comme je l'ai indiqué précédemment, en ce qui concerne les titulaires de l'autorité parentale pour les mineurs et les tuteurs dans certaines conditions. Donc, le médecin ne pourra donner aucune information médicale ou alors les donner qu'avec l'accord et en présence du patient. Et c'est exactement le motif principal des courriers de tiers que nous recevons dans notre établissement.
Alors, donc, si le patient ne donne pas son consentement, la famille qui ne sait pas comment se comporter avec le malade ne comprend pas pourquoi le médecin refuse de donner toute cette information.
Oui, effectivement, hein, nous en sommes conscients, mais mon rôle, c'est d'expliquer cette partie de la législation aux familles.
Alors, qu'est-ce que peut faire la famille ? Est-ce qu'elle peut avoir un recours pour quand même connaître un minimum d'informations ?
Hormis celui de convaincre le patient de laisser la famille accéder aux informations, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Vous devez savoir quand même que les équipes médicales et soignantes jouent un rôle très important dans ce type de situation, puisque dans le cadre de la mise en place du parcours de soins, les équipes ont conscience de l'importance que peut jouer la famille. Donc, ils s'efforcent dans la mesure du possible, en tout cas, et tout cela sans rompre la relation de confiance qui a pu s'instaurer avec l'usager, de lui faire comprendre tout l'intérêt d'être entouré de ses proches dans la prise en charge de la maladie psychique. Donc, moi, j'essaie de faire le lien entre les uns et les autres et j'apporte des explications qui sont basées sur la législation. Donc, il m'arrive aussi très souvent d'orienter les familles qui sont parfois démunies par rapport à la maladie de leurs proches vers l'UNAFAM qui propose de l'entraide, des groupes de parole, mais aussi des formations.
Alors, est-ce qu'il existe les mêmes règles de confidentialité entre les établissements de santé et entre les médecins ?
Oui, tout à fait, Catherine. La législation, elle est la même pour tous les professionnels des établissements de santé, qu'ils interviennent en secteur public ou privé.
Alors, nous n'avons pas le temps suffisant pour aborder un sujet particulièrement délicat qui pourrait faire l'objet d'une émission entière. Il concerne les soins sans consentement. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Donc les soins sans consentement, ils ont été réformés par la loi du 5 juillet 2011, dont elle a modifié profondément les pratiques professionnelles avec un encadrement législatif rigoureux. Et afin de sécuriser ces procédures, donc le directeur du centre hospitalier La Chartreuse, M. Madel Puech, il a tenu à mettre en place une organisation spécifique dédiée aux soins sans consentement. Donc moi-même, j'ai été initialement recrutée en 2011 en tant que juriste pour mettre en place cette loi sur le centre hospitalier La Chartreuse. Puis très vite, il y a un bureau des soins sans consentement qu'on appelle BSSC qui a été créé, qui est aujourd'hui composé de 3 personnes et qui est dédié exclusivement au suivi des soins sans consentement. Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que cette organisation elle a été saluée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et les experts visiteurs de la Haute Autorité de la Santé qui ont visité l'établissement en 2015. Aujourd'hui, moi-même, je n'interviens que ponctuellement en appui juridique sur demande du BSSC. J'étudie par exemple tout ce qui est levé prononcé par le juge des libertés de la détention afin de voir quelles actions correctives je peux mettre en place. Et puis sur cette thématique, je peux également être amenée à mettre en place des audits, des actions d'information. Et surtout, je suis aussi, je vous ai dit que j'étais formatrice tout à l'heure, je suis formatrice pour l'École nationale des greffes à Dijon et je forme les greffiers du juge des libertés de la détention sur la thématique des soins sans consentement. Voilà.
Madame Giraud, j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, mais malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Votre rôle est considérable, votre mission est très appréciée aussi bien par les usagers que par le personnel médical que vous éclairez de vos conseils juridiques appropriés à chaque situation. Mais le juridique ne doit pas faire oublier l'humain, et il me semble que vous avez su allier les deux grâce à votre accueil, votre écoute et votre disponibilité. Je vous remercie, Madame Giraud, de votre témoignage.
Merci, Madame Norguet.